Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, « En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Alors même qu'elle constitue le cœur de la foi chrétienne, la résurrection représente, pour les chrétiens eux-mêmes, une question, voire un défi. Si le miracle de la résurrection décrit dans la Bible peut être pour les non-croyants une insulte à la raison, il est loin de faire l'unanimité chez les croyants qui se trouvent parfois embarrassés devant un tel héritage. Paul écrit aux Corinthiens, « Puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. » Ces dernières semaines, entre les catéchumènes qui préparent la confirmation, notamment au cours de la retraite de 5 jours auxquels nous les avons accompagnés, mon collègue Pierre et moi, cette femme dont le mari vient de décéder et ce couple qui désire tant que la bénédiction de leur mariage se fasse dans un temple protestant, il m'a été donné de rencontrer le protestantisme dans toute sa richesse, dans toute sa beauté, la réflexion, l'indépendance d'esprit, l'interprétation personnelle et la possibilité de confesser Dieu avec ses propres mots. Mais à chaque fois, la résurrection était problématique. Et j'ai trouvé intéressant combien pour le protestant du XXIe siècle, la résurrection, l'événement fondateur de sa propre tradition religieuse, une tradition qu'il assume en l'occurrence et revendique même au point d'y inscrire les temps forts de sa vie spirituelle, mais de sa vie tout court, au point même de les vivre en voulant y inviter sa famille, ses amis, ses collègues, et donc de témoigner. La résurrection était en quelque sorte reléguée comme si elle était un point secondaire. Et je l'analyserai ainsi. Pour le catéchumène, c'est-à-dire l'adolescent, la question est sans doute trop éloignée de sa réalité et trop vague, car il l'assimile presque de manière automatique à une réponse à la mort physique et qu'une des caractéristiques de l'adolescence est le développement d'un sentiment d'invulnérabilité qui rend compliqué toute réflexion sur ses propres limites. En clair, la résurrection est a priori hors sujet pour un adolescent, car elle répond à une question qu'il ne se pose pas. Sauf qu'il est tombé au mauvais endroit. Parce qu'au bouclier, on la lui pose et on le force à y réfléchir, jusqu'à ce qu'il arrive à nous faire croire qu'il a un peu avancé sur la question. Notez d'ailleurs qu'il y a souvent des exceptions, et qu'ici, ces exceptions sont plutôt nombreuses. Mais je dirais que globalement, la résurrection est un thème assez éloigné des préoccupations de l'adolescent moyen qui la refoule, autant qu'il refoule l'idée de sa propre finitude, jusqu'à ce qu'il se sente invité à y réfléchir dans un contexte bienveillant, avec la certitude qu'il ne sera pas jugé s'il exprime ses craintes, ses doutes et ses certitudes parfois. Et qu'il comprenne que le refus de la mort est la meilleure façon de lui accorder domination. Car quand la mort est niée, il ne peut y avoir de place pour une espérance au-delà de l'absurde. Mais quand la mort est affrontée face à face, il est possible que l'absolu du chaos se voit transcendé, transfiguré. Les personnes en situation de deuil sont dans une situation diamétralement opposée, confrontées contre leur gré à la finitude humaine, jetées dans la vallée de l'ombre et de la mort sans avoir eu le temps de s'y préparer. Mais peut-on vraiment s'y préparer ? Elles vivent une épreuve qui rend difficile, du moins dans les premiers temps, une approche dépassionnée de la résurrection. Le mot lui-même, résurrection, peut leur sembler être une insulte à ce qu'ils sont en train de vivre, une expérience qui s'oppose en tout point à ce que recouvre ce mot. Il évoque la vie alors qu'elles sont plongées dans la mort. Il évoque l'avenir alors que le passé semble encore si réel qu'on voudrait s'y accrocher. Enfin, il évoque la figure d'un autre, Jésus-Christ, alors que la présence de la personne défunte comble tout vide. La résurrection souvent vient percuter le deuil. Si bien que le culte d'action de grâce ne devrait jamais être une annonce tonitruante de la résurrection, renforcée de manière un peu incantatoire par le « à toi la gloire » devenu un passage obligé, bien qu'il sonne justement à ce moment-là comme une agression aux oreilles de ceux qui ne peuvent pas voir plus loin que la tombe, pour le moment. Pour le moment, car si la résurrection est d'abord et avant tout événement, elle l'accompagne aussi. Au début intrusive, cette présence peut s'avérer bénéfique dans la durée. Enfin, les mariés que j'évoquais également, jeunes ou moins jeunes, demandant une bénédiction de leur union devant Dieu quand ils sont prêts à faire une démarche de réflexion sur la nature de leur engagement, sur la manière dont ils s'accordent ou pas, sur leur conception du couple, ne se sentent pas a priori concernés par un thème aussi éloigné de leurs préoccupations du moment que ne l'est la résurrection. En effet, le lien n'est pas évident, de temps qu'il est de moins en moins rare que les amoureux, c'est moi qui suppose qu'ils sont amoureux, en allant voir un pasteur, pensent n'avoir qu'à évoquer avec lui que des questions contingentes, que sont le choix des textes bibliques, le choix des cantiques, le choix de la place de la mariée en fonction de la longueur, de la traîne. Et il faut alors plusieurs heures de préparation, de discussion, la découverte de textes méconnus pour comprendre que le couple est justement le lieu par excellence de l'expérience de la résurrection. La préparation sera réussie quand l'un et l'autre auront réalisé que la partition qu'ils auront à jouer à quatre mains comportera non seulement des passages difficiles, mais qu'il manquera parfois des pages. Que l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sera soumis à des épreuves dont la vie a le secret, et que certaines seront pour le couple de véritables morts auxquelles il faudra essayer de faire face tant bien que mal, avec cette certitude que la mort n'a pas le dernier mot. Le catéchumène, la personne qui vit le deuil, le jeune marié, à travers ces trois typologies, on aurait pu en trouver d'autres, à travers ces trois typologies qui sont pour moi des visages, mais pour vous aussi, il y a chacun de vous. Il y a l'idée que la résurrection n'est pas un concept abstrait, qu'elle n'est pas un discours théologique, qu'elle n'est pas le fruit d'un théologien en chambre qui a fait, au bout de quelques équations, un résultat intéressant, mais qu'elle réalise sa vocation quand elle vient s'incarner dans chacune de vos vies pour y faire surgir la présence de Dieu. Ézéchiel, le prophète des exilés, le savait. Lui qui proclame la connaissance d'un Dieu qui se fera connaître comme jamais auparavant par ses actions, tant en Israël que parmi les nations. Être reconnu est le but du Seigneur dans tous ses actes. Et je cite, « Et ils sauront que je suis le Seigneur », dont il paraît que c'est écrit 72 fois dans le livre d'Ézéchiel. Alors, je n'ai pas compté moi-même. Car la connaissance de Dieu nous est rendue possible par ses actes de salut, vécus comme des attestations de la gloire de Dieu. « J'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. » Lorsque j'ouvrirai vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je mettrai mon souffle en vous. Vous reprendrez vie. Il ne faut pas ici se tromper et recevoir ces phrases avec le regard d'un sceptique qui voudrait, vous savez, évaluer la pertinence d'une telle proposition, qui voudrait en peser le pour et le contre pour savoir si finalement il sera d'accord ou pas. Car une telle formule ne peut se comprendre que dans la mesure où elle a déjà été reçue. Elle ne s'adresse ni à la spéculation, ni à l'effort intellectuel, mais elle exprime déjà, en fait, une reconnaissance après l'acte divin reconnu comme tel. Et vous pouvez au passage rejeter facilement l'idée souvent évoquée par les détracteurs de la résurrection qui voudraient que cette notion puise sa raison d'être dans l'aspiration humaine à ne pas tomber dans le néant au moment de la mort. Ce serait finalement une manière de se rassurer. Clairement, le texte commence et finit avec le souci que le nom de Dieu soit honoré. L'enjeu n'est donc pas tant concernant l'avenir de l'être humain que concernant la gloire de Dieu. L'enjeu n'est pas théocentrique, il est théocentrique, il n'est pas anthropocentrique. Dans cette perspective, celui qui n'a jamais fait l'expérience de la reconnaissance, celui qui jamais n'a ressenti qu'il était comblé par une grâce qui ne soit pas le fruit de ses œuvres, reste étranger à la force de cette formule, à moins que justement, peut-être, la puissance de l'esprit soit telle que le texte lui permette de réaliser combien il se découvre être au bénéfice d'autre chose que de lui-même dans sa propre vie. Si c'est le cas, alors celui-là comprend que la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu plus forte que les humains. Et enfin, je voudrais terminer en disant qu'entre la proposition de celui qui refuse en bloc les récits de la résurrection au nom de leur incohérence scientifique, par exemple, et celui qui, à l'extrême opposé, comme le patriarche Athénagoras, peut s'exclamer « Pour celui qui sait regarder, tout est miracle. La résurrection, c'est le commencement de la transfiguration de la terre. » Eh bien, entre ces deux positions, il existe un espace très large à habiter, une infinité de lieux sur lesquels il est possible de se situer de manière personnelle, et donc en protestantisme légitime. Encore faut-il oser se situer et ne pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Prendre la place qui m'est offerte et l'investir. La foi chrétienne n'est pas une démonstration rhétorique ni une posture idéologique, elle est une espérance fondée sur un événement et une rencontre. La rencontre du Christ au fil de nos existences. À chacun d'entre nous de nous situer en osant d'abord timidement, puis moins timidement, attester que Christ est ressuscité et qu'il a transfiguré nos vies. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.